L'observabilité est un sujet passionnant, et vous devez vous douter qu'il me passionne particulièrement puisque j'ai rejoint Datadog il y a peu. J'en ai parlé récemment, l'observabilité s'appuie sur les trois grands piliers que sont les logs, les métriques et les traces. Or, une des difficultés avec l'observabilité, c'est qu'on utilise souvent plusieurs outils pour capturer toutes ces données, alors qu'elles ne prennent vraiment du sens que lorsqu'elles sont corrélées les unes avec les autres. Unifier les trois piliers de l'observabilité pour briser les silos a toujours été au cœur des préoccupations de Datadog. Et c'est avec plaisir que j'en discute aujourd'hui avec mon confrère Nicolas Narbet, Senior Technical Account Manager chez Datadog. Salut Nico, bienvenue.
Salut Stéphane.
Aujourd'hui, on est là pour parler d'observabilité. Alors l'observabilité, c'est plutôt un terme récent. Il y a 5-10 ans, je n'avais pas l'impression qu'on l'utilisait particulièrement. C'était plutôt de monitoring. Quelle est la différence entre du monitoring et l'observabilité?
Je pense que le monitoring, c'était plus lié à l'outil en lui-même. Alors que l'observabilité, on va aller sur l'objectif du client, qui est de pouvoir comprendre ce qui se passe dans son... dans ces systèmes, etc., et que du coup, l'outil en lui-même, finalement, on étend l'outil à beaucoup plus de produits comme infra, APM, logs, même RAM, etc. Tout ça pour tous ces outils-là qui étaient avant très séparés, les ramener ensemble pour potentiellement avoir une vue complète de ce qui se passe sur un système. En tout cas, c'est mon point de vue, ramener l'objectif au centre du problème, qui est de comprendre comment fonctionne un système et mettre l'outil comme une aide, ou plusieurs outils comme une aide à cette compréhension.
De ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est donc ajouter plusieurs outils pour avoir une vue globale, mais tel que tu me l'as présenté tout au début, j'avais aussi l'impression que c'était on ne monitore plus les choses comme avant, c'est-à-dire que le point de vue finalement a peut-être changé. Donc moins partir sur on est en train de monitorer de l'infrastructure et dans ce cas-là, on se préoccupe du CPU, mais plus avoir une vue d'un point de vue client, par exemple, produit ou...
Disons qu'on va aborder le problème d'une autre manière, puisqu'on on parle plus de... Enfin, on essaie de casser les silos dans ce monde d'observabilité. Donc, on est plus sur... On fait de l'infra et on monitore mon CPU pour savoir si mes serveurs fonctionnent bien. De mon point de vue, ça va être, on monitore un système. Le système en entier doit fonctionner pour un client. Du coup, peu importe si c'est un problème d'infra, d'APM, de logs, si on peut trouver l'information dans les logs, etc. Toutes ces informations-là regroupent finalement, peuvent permettre d'avoir une bonne vue et une compréhension de mon système et du coup, aide à la résolution. On est plus sûr juste le CPU va m'aider à comprendre si mon serveur fonctionne bien correctement. Le CPU, c'est une des variables à travers mon système en entier. Potentiellement, c'est peut-être le service qui a fait n'importe quoi, qui a fait augmenter mon CPU, ou quelqu'un d'autre qui utilise le même serveur, qui a fait utiliser mon CPU. Et du coup, j'ai un impact non seulement sur le CPU, mais cet impact sur le CPU a eu des effets sur d'autres services. Donc, monitorer un système dans l'ensemble et pouvoir naviguer sur les différents types de données qu'on récupère pour trouver d'où vient le problème.
Alors, je t'entends parler d'APM, par exemple. Qu'est-ce que c'est l'APM?
Application Performance Monitoring. Donc, c'est un outil spécifique pour les services et applications. Ça se positionne un petit peu entre les logs et les métriques. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres en disant ça des personnes, mais l'objectif, c'est d'avoir de données avec juste une librairie qu'on rajoute dans un service, dans votre application, d'avoir une vue globale, avoir des métriques sur le long terme, des key golden metrics qui me permettent de comprendre si au niveau santé du système tout fonctionne bien, si le response time est bon, s'il n'y a pas trop d'erreurs, si la latence est bonne. Et dans le même package, pouvoir analyser sur une requête particulière quels sont tous les services qui ont été impliqués dans cette requête-là et avoir beaucoup plus de contexte Alors qu'un log, c'est juste, par exemple, juste une ligne de code, une trace. Donc, une trace, c'est une des données fournies par APM. Elle va fournir un contexte global avec des liens entre tous les services qui ont été impliqués. Donc, pouvoir, si mon service répond à une erreur, est-ce que c'est une erreur qui est normale de mon point de vue ou c'est un enchaînement d'erreurs de tous les services qui ont été dans la chaîne de réponse?
Ok. Donc, tu dis que l'observabilité, c'est un mélange d'outils. Pour moi, le monitoring, c'était beaucoup des métriques. Et puis, on avait les logs après pour troubleshooter. Là, tu rajoutes l'APM. Mais comment tu fais tourner tout ça ensemble? Je veux dire, comment corréler les différentes choses? Tu as un outil d'APM, un outil de log, un outil de métrique.
Alors ça dépend beaucoup de l'outil. L'outil qu'on utilise en dessous. Moi, je connais bien Datadog. Donc, chez Datadog, il y a beaucoup de... C'est un seul agent qui essaie de récupérer toutes les informations, donc des métriques, des logs, de l'APM et d'autres. Et grâce à certaines identifiants que l'on positionne, par exemple, sur dès qu'on a une requête d'un utilisateur, on va créer ce qu'on appelle une Trace ID qui va être transmise entre toutes les applications, mais qui va aussi être insérée dans les logs pour pouvoir avoir ce lien qui se crée dans la plateforme, même si les deux éléments, les deux types de données vont être envoyés séparément, la plateforme derrière, grâce à ce Trace ID, va pouvoir faire le regroupement. Et par rapport aux métriques, donc les métriques, c'est quelque chose de beaucoup plus natif sur l'infrastructure et autres, Datadog comprend que la partie, en tout cas sur la partie APM, ou même sur les logs et autres, l'origine de cette information, de la donnée qu'on va envoyer dans la plateforme, est importante, donc récupérer les informations de l'host, du serveur qui va émettre cette donnée, que ce soit log, APM, métrique, que ce soit le pod, etc. Donc ces informations-là vont être aussi, avec toutes les informations qu'on envoie, on va enrichir ça avec ces informations de serveur, de pod name, etc. Et derrière, la plateforme va encore pouvoir aider à regrouper ça. Donc c'est quand même, on reste sur des produits séparés, mais grâce à ces outils d'identification et de source de l'information, la plateforme elle-même va pouvoir connecter tout ça ensemble et permettre d'avoir une vue complète et de facilement naviguer d'un produit à l'autre. Je pense que c'est un des aspects qui est très fort chez Datadog et autres, c'est la possibilité d'avoir tout au même endroit. C'est-à-dire que même si quelqu'un est plus dans la partie infrastructure, etc., de pouvoir facilement voir ce qui se passe au niveau applicatif, même s'il n'est pas expert, mais pouvoir voir côté applicatif, comprendre ce qui se passe. Et de la même manière, si quelqu'un est plus dans la partie applicative et comprend pas vraiment ce qui se passe, même sur Kubernetes ou sur l'infra en lui-même, d'avoir quand même quelques métriques qui lui permettent d'indiquer si c'est vraiment son application qui a un problème ou si ça vient d'en dessous. Donc lier tout ça ensemble, ça a beaucoup de sens.
Pour avoir de l'observabilité, donc il faut plusieurs dimensions, on va les appeler comme ça, log, métrique, APM, et j'aimerais savoir à quoi servent chaque, précisément dans le diagnostic, à quoi servent chacune de ces différentes choses. Donc, à quel moment les métriques interviennent pour détecter des erreurs, à quel moment les logs interviennent pour détecter les erreurs, et même chose pour les traces.
Alors, sur ça, c'était un avis très biaisé, mais je pense qu'on est on va repartir sur les bases de chaque type de données qui ont été fournies. Une métrique, c'est quelque chose qui est amené à être retenu sur une longue période de temps, qui donne des indications de trends, d'évolution dans le temps, etc., comparé à ce mois-ci au mois dernier. Par contre, une des limitations des métriques, c'est la cardinalité, donc le nombre de contextes différents liés à une information. Par exemple, si on parle sur le nombre de requêtes reçues sur un service, on pourrait potentiellement enrichir ça avec l'utilisateur, l'identifiant d'utilisateur, mais ça rajouterait une sorte de nombre infini, plus ou moins, d'utilisateurs qui pourraient atteindre la plateforme, et du coup, ça, c'est pas forcément le meilleur pour une métrique. Pour autant, cette information-là n'est pas forcément nécessaire. Une métrique, on reste sur une donnée assez haut niveau qui permet de comprendre la santé d'un système. On va pas pouvoir dire exactement ce qui se passe, mais on va pouvoir dire qu'il y a un grand nombre d'erreurs. On va pouvoir dire que ma base de données, elle se comporte pas bien, il y a quelque chose qui va pas bien, il y a une métrique qui commence à avoir qui commence à saturer, et on veut régler ça. Donc, si on reste sur les contraintes des métriques font que on va rester sur des choses de très haut niveau, par contre, ça nous permet de comprendre s'il y a un comportement qui est anormal comparé au passé, s'il y a un pic, s'il y a quelque chose, et vu que la rétention est longue, de pouvoir comparer ça au mois dernier, à la semaine dernière, au quarter, au précédent quarter, etc. Alors que si on part sur une trace ou sur un log, on va être sur des données beaucoup plus complexes, complètes. Ici, on ne parle pas de cardinalité, on peut envoyer n'importe quel type de données. Il y a n'importe quel type de string dans un log, ou même dans une trace, on peut rajouter n'importe quel type d'élément de contexte. Et l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une vue plus complexe et plus précise sur un élément donné. Une trace en particulier, ça va vous permettre d'analyser tous les services qui sont liés entre eux, de pouvoir enrichir ça, potentiellement de comparer en fonction du contexte. Par exemple, si vous avez un type de des feature flags qui sont à on ou à off sur votre application, de pouvoir comparer si la latence, etc., a des divergences en fonction de si ce feature flag est là ou pas. Donc ça, c'est pas mal de choses qui peuvent être du coup mis en place avec des traces, puisqu'il n'y a pas de cardinalité, on peut rajouter autant d'informations qu'on veut, et du coup comparer ces informations, comparer ces contextes en fonction du niveau de l'utilisateur aussi, premium, freemium, etc., voir les comportements, etc. Pareil pour les logs, en fait, finalement, on va arriver sur les... Vu qu'il n'y a pas de problème de cardinalité, on va arriver sur tout ce qui est unique. Votre code a pris un chemin qui est très très rare et qui, voilà, vous savez qu'il va potentiellement avoir des problèmes et vous loguez quelque chose pour dire il est passé par là et voici les informations avec les paramètres à laquelle il est passé qui pourraient indiquer ensuite le comportement futur. Le log, c'est vraiment pour quelque chose d'unique. Quand je parle de log et de traces comme ça, on voit beaucoup d'intérêt pour faire du troubleshooting et autres. Le problème de ces éléments-là, c'est la rétention. C'est des objets qui sont beaucoup plus lourds à stocker. Et du coup, en général, les périodes de temps de stockage sont plus courtes. Sur les logs, chez Datadog, ça va entre 3 jours et 90 jours si on est vraiment poussé. Et sur les APM, on parle de soit 15 minutes pour tout ce qui est envoyé, potentiellement on peut garder ces choses-là sur 15 jours. Donc c'est quand même des données assez courtes, et pour avoir des trends, c'est pas aussi efficace qu'une métrique qui, elle, va avoir 15 mois de données, en tout cas chez Datadog, pour voir ce qui se passe ce mois-ci comparé au mois dernier.
Si je veux un exemple, j'ai un problème sur... Mes utilisateurs se plaignent de latence, par exemple. Où est-ce que je commence à investiguer ? Quelle est la différence entre avant où j'avais peut-être un serveur web sur lequel je pouvais directement aller voir les logs et essayer de voir d'où venait cette latence, avec maintenant mes utilisateurs se plaignent de latence, par où je commence mon voyage ?
Ouais, encore une fois, là, ça dépend du nombre de produits qui ont été instrumentés. Si on parle d'utilisateurs, pourquoi ne pas commencer au plus près de ces utilisateurs-là et parler en termes de RAM, donc Real User Monitoring, et de pouvoir évaluer au niveau browser, au niveau mobile, quels sont les comportements, est-ce qu'il y a eu des erreurs à ce niveau-là. Si c'est des problèmes de latence, au niveau browser, au mobile, on va pouvoir isoler des appels à des ressources extérieures, comme le backend, votre backend, pouvoir identifier la latence, donc la durée à laquelle c'est reçu. Et puisque c'est des données qui sont au niveau utilisateur, vous pouvez aussi enrichir ces données-là avec potentiellement l'identifiant de l'utilisateur. Donc pouvoir identifier si quelqu'un se plaint précisément, pouvoir identifier la bonne personne. Sinon, si c'est un groupe de personnes données, pouvoir essayer d'identifier certains paramètres au niveau front-end qui posent problème. Potentiellement le pays, peut-être la ville, peut-être une certaine version de l'application qui est déployée différemment d'un côté à l'autre. Donc pouvoir identifier à ce niveau-là. Et une fois qu'on a analysé ce côté-là, il suffit d'aller à chaque fois une étape plus loin. Donc si on ne voit absolument rien sur la partie front-end, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il y a quelque chose sur le back-end. Donc la prochaine étape qu'on va sûrement voir, c'est les logs et l'APM. Voir si au niveau du service qui tourne sur sur l'infrastructure, c'est possible d'identifier un pic de latence, un nombre d'error rates qui augmente. Pour ceci, en général, soit on connaît l'application très très bien et du coup on sait que le front-end il parle à ce back-end et que du coup on va directement dans le back-end, il n'y a pas forcément besoin de lien. Et encore une fois, chez Datadog, sur ce côté-là, il y a une certaine connexion qui se passe. Et du coup, il y a la possibilité en fait de pouvoir voir depuis les informations front-end, de pouvoir se connecter directement au back-end et de voir si la requête depuis le front-end, donc depuis l'application client, elle a pris 3 secondes, est-ce que c'est 3 secondes qui sont liées au back-end, donc potentiellement 2 secondes de back-end, 3 secondes de front-end, pour répondre, ou est-ce que c'est, on voit que c'est que du réseau, et dans ce cas-là, on voit qu'il y a une seconde de latence, et peut-être que c'est lié au pays, c'est qu'il y a des problèmes beaucoup plus complexes qui sont extérieurs à la plateforme. Et encore une fois ici, si on voit qu'il y a pas forcément, il y a des problèmes de latence et autres, l'objectif, c'est qu'une fois que ces métriques sont analysées, d'aller encore plus loin, d'aller voir la trace, voir si c'est un, quel service a un problème. Est-ce que c'est un problème lié au code par rapport à une nouvelle version qui a été déployée? Est-ce que c'est un problème lié à l'infrastructure parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là? Donc, à chaque fois, aller juste étape par étape et bah, plus ou moins, au fur et à mesure, réduire le notre funnel de possibilités et trouver la root cause.
Ça n'a pas l'air si complexe à mettre en œuvre. Ça a l'air très facile à diagnostiquer par soi-même, mais dans la mesure où l'échelle est petite. J'ai l'impression que si on a un service de front-end, un service de back-end, on arrivera vite à avoir un diagnostic en regardant les logs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est dans un environnement où on a explosé tout ça en microservices et que finalement, les interactions entre les différents services sont beaucoup plus complexes? On peut ajouter beaucoup de composants entre le back-end et le front-end. On peut aussi avoir plusieurs back-ends. Bref, si on est en microservices, ça me paraît beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Et la façon dont on peut diagnostiquer un ralentissement de notre service n'est pas si évidente que ça. Comment on arrive à réconcilier le fait que tout soit explosé un peu partout?
Alors moi, je parle principalement pour Datadog, pour savoir ce côté-là, mais pour ce genre d'outil, un log, c'est quelque chose d'unique, et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il n'a aucun contexte sur quel service est passé avant lui, après lui, etc., donc c'est un peu difficile à ce niveau-là. L'APM, le principe d'une trace, comme j'ai dit, il y avait une trace ID, et cette identification va être, ID va être transférée à tous les services au long de la chaîne. Donc on va pouvoir représenter tout ça, peu importe s'il y a 20, 30, 50 services qui sont impliqués à la réponse d'un client, il y a toutes ces informations-là, on va pouvoir voir à travers le temps tous les services qui ont répondu, et comprendre à quel moment il y a un service qui a commencé à répondre d'une mauvaise manière. En plus de ça, il y a, vu que Datadog a une certaine vision de ce contexte et de toute cette visibilité-là, il y a certaines métriques qui vont être fournies dans des pages d'overview du service qui permettent en fait de voir quelle est la proportion de manière générale. Donc si on parle sur un service met une seconde à répondre, quelle est la proportion de tous les services qui ont fait que ça a mis une seconde. Potentiellement, il y a peut-être un service qui a pris 50% du temps et l'autre qui a pris 20% du temps. Mais les dernières 5 minutes, étrangement, c'est le service qui prenait 20% qui est passé à 40%. Donc, on va pouvoir visualiser ça sur un graphique et identifier à travers toute la chaîne de services assez rapidement, qu'est-ce qui pose problème. Et je parle là d'un exemple très précis, mais le principe d'APM, justement, c'est d'avoir une sorte de vue biaisée sur cet ensemble de microservices pour pouvoir fournir différentes vues qui permettent d'identifier, voilà, ici c'est potentiellement un service qui va péter, mais pouvoir aussi voir sur la chaîne de services si comment une erreur se propage à travers toutes les autres services pour pouvoir identifier plus tard s'il n'y a pas de moyen d'échouer un peu mieux et de pouvoir répondre à un client, réessayer plus tard ou quelque chose comme ça, au lieu de remonter toujours une erreur qui remonte au client et qui offre une mauvaise expérience. Mmh.
Donc quand tu identifies le service qui pose problème, tu n'as pas pour autant la root cause du problème. Comment corréler le service qui prend 20% de temps de plus que tu as facilement identifié avec la root cause du problème qui peut être, je ne sais pas, un disque qui a cassé, une région qui a disparu, enfin, tout un tas de problèmes qui peuvent arriver.
Du coup, à ce niveau-là, on repart sur le contexte, le principe d'observabilité, d'avoir tous les outils au même endroit. Parce que, en tout cas chez Datadog, une fois qu'on a identifié le service en particulier, il y a la possibilité très très rapidement de switcher du APM à infrastructure, à logs, etc. Donc potentiellement, ici, on pourrait imaginer que on voit qu'il y a un service qui a pété, essayer de comprendre si on parle de Kubernetes, sur quel cluster il est en train de tourner, voir le statut de ces machines-là, est-ce que toutes les machines fonctionnent correctement, est-ce qu'il y a du CPU très élevé, plutôt bas, etc. Si c'est un problème plus de développement et de service en lui-même, si c'est quelque chose de très nouveau, il y a possibilité au niveau d'APM d'ajouter ou d'enrichir les informations de latence avec la version de l'application. Donc, si on voit que ces informations, on voit que la latence augmente et qu'il y a une nouvelle version qui a été déployée au même moment, la corrélation est plutôt forte ici, on voit que c'est plutôt au niveau du code. Et il y a même la possibilité au niveau des logs, si on voit un certain nombre d'erreurs, d'avoir cette vision par ce qu'on appelle patterns, des regroupements de logs, et de pouvoir voir une sorte de d'augmentation du nombre de logs en erreur sur un certain type de log qui n'existait pas avant, qu'on ne voyait pas ou très peu, et finalement qui commence à grandir depuis une certaine période de temps. Donc, peu importe ici la vue, APM, logs, on a même sur APM, on a également un nouvel outil d'erreur tracking qui permet de plus ou moins de se focaliser sur les erreurs, de compter les erreurs, etc., et de pouvoir les visualiser à travers le temps, voir s'il y a une augmentation de cette erreur-là, si ça diminue, etc. Donc, si c'est pas un problème de latence, pouvoir voir aussi voilà, si c'est un problème d'erreur ou d'infrastructure, comme je disais, en rapidement pivotant vers ce qui peut poser problème.
Dans tout ça, souvent, on parle de visualisation, on parle de dashboard, pour visualiser, par exemple, un nombre d'erreurs qui augmente, pour visualiser un cluster qui est chargé ou des choses comme ça, on le fait au travers de dashboards.
Alors, mon point de vue sur les dashboards, c'est de ce que j'ai parlé précédemment, c'était principalement de l'investigation sur quelque chose d'assez unique. La majorité du temps, les gens comprennent leur système quand ils développent, ils savent quels sont les composants qui ont tendance à péter, à faire des siennes. Ils savent au préalable qu'il faut qu'ils monitorent leur performance de leur propre application, de leur code, etc. Donc, si tout ça c'est bien compris, en général, les utilisateurs vont créer un dashboard. Et ce dashboard-là, le principe, c'est d'y insérer toutes les informations qui peuvent potentiellement aider à trouver la root cause directement, sans avoir à naviguer n'importe où, juste avec un seul dashboard, pouvoir visualiser toutes les composantes, que ce soit de l'APM, que ce soit des logs, que ce soit des infrastructures, etc., toutes étaient au même endroit, pour que lorsqu'il y a quelque chose qui pète, on puisse très rapidement scroller à travers tout ce dashboard-là et dire, bon, ça vient absolument pas de l'infrastructure, l'infrastructure, il n'y a rien qu'à changer depuis une demi-heure. Attention, j'ai des métriques sur les deux services auxquels je suis, j'ai des dépendances qui commencent à être un peu fébriles, et je vois que j'ai un nouveau type d'erreur qui remonte dans les logs, ou que j'ai un gros nombre d'erreurs qui remontent. Donc, pouvoir avoir tout ça déjà dans un dashboard, ce que j'essaie de dire ou de raconter aux clients, c'est si vous savez qu'il va y avoir un problème là-dessus, ben, mettez-le dans votre dashboard, ça vous aidera beaucoup, beaucoup pendant un troubleshooting. C'est tout bête, mais un des principes de Datadog, c'est aussi d'avoir tout au même endroit, donc de ne pas avoir de context switching. Ce context switching, c'était l'objectif de dire, c'est peu importe, si vous perdez 2 minutes pour aller sur un autre outil, pour aller voir s'il y a les logs, remettre le contexte, etc., c'est 2 minutes de perdu. Et encore une fois, si tout est dans un dashboard, vous n'avez pas à perdre une minute pour retrouver où est-ce que ma trace, où est-ce que mes logs, etc., même si c'est beaucoup plus simplifié parce que tout est lié ensemble, c'est quand même des clics qui sont inutiles alors que vous pouvez juste scroller dans un dashboard et vérifier que tout ce que vous avez prévu qui pouvait péter, soit il y a un truc qui est évident et vous pouvez l'identifier, soit si c'est pas évident, il faut chercher. Mais la prochaine fois que vous avez ce problème-là, la prochaine fois que pour éviter de pouvoir d'avoir à rechercher derrière, rajouter cette information dans votre dashboard. Il y a un article sur AWS qui est plutôt sympa sur ça, qui indiquait que la partie de dashboarding et de monitoring, c'est quelque chose d'assez vivant. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est statique. À chaque fois qu'il y a eu un post-mortem, qu'il y a une nouvelle version release de l'application, se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que je mette à jour mon dashboard, que je mette à jour mes moniteurs, parce qu'il y a un nouveau composant qui rentre en compte, ou je vois qu'on ne monitore absolument pas le Kubernetes, la limite de mes pods Kubernetes pour mon application. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que je monitore ça pour voir s'il n'y a pas un truc qui peut péter aussi? Donc, toujours penser à enrichir ces dashboards-là avec des idées qui peuvent vous passer par la tête ou bien avec lorsque vous avez un incident pour être sûr que la prochaine fois, ce même incident soit détecté et troubleshooté en 5 minutes au lieu de passer une demi-heure à trouver à travers les pages qu'est-ce qui peut péter.
Alors, je suis peut-être vieille école, mais pour moi, les dashboards, c'était principalement des time series. Mais tu parles d'y mettre, je sais pas, de mettre un error rate dans les logs, par exemple dans ton dashboard, ou d'autres composants. Qu'est-ce qu'on peut mettre au final dans un dashboard en plus que des time series?
On peut mettre un peu tous les types de représentations. Les time series, c'est très bien pour avoir une sorte d'évolution des trends. D'autres informations qui peuvent être intéressantes, ça va être des top lists ou des choses comme ça qui vous permettent d'identifier les pires cas. Sur mes pods, sur mes nodes, dans mon cluster Kubernetes, est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux qui ont vraiment des comportements anormaux, pour pouvoir faire juste des... Finalement, la période, le temps sélectionné n'a pas d'importance, on veut juste voir sur la moyenne sur ce temps-là, est-ce que... Quel était. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur un dashboard, et puis un dashboard, c'est pas seulement des time series. Un des aspects que j'essaie de pousser énormément avec des clients, c'est que même si les informations sont mises sur un dashboard, est-ce que ces informations sont faciles à lire? On parle aussi de tout simplement de rajouter des notes pour dire que si cette métrique passe au-dessus d'un threshold, allez voir cette documentation-là, c'est très bien fourni, il faut redémarrer l'application, il faut faire quoi que ce soit. Enfin, il y a une liste d'instructions qui ont déjà faites pour que la prochaine personne qui vienne voir le dashboard, même pas à se poser la question de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, peu importe si je suis là depuis une semaine que depuis 3 ans sur la même application, j'ai les mêmes informations, si cette métrique ne va pas bien, j'ai cette méthode à suivre qui me permet de remettre le service en bon état. Et je pense que le dashboard va bien au-delà de juste des time series, il faut vraiment réfléchir à comment rendre l'information sur le dashboard la plus actionable possible. Et quelque chose aussi très bête, mais rajouter des thresholds sur un dashboard, des limites dans lesquelles si je passe au-dessus de 100, 200, c'est pas bon, ou au-dessus de 90, c'est pas bon. Tout ce genre de choses, ça permet à des personnes qui, même sans lire l'axe des assises, l'axe des ordonnées ou le titre du graphique, si on voit que la ligne de time series est très très loin derrière ce que j'ai mis comme zone rouge, j'ai même pas besoin de lire cette partie-là et je peux parler très très rapidement de passer au suivant. Je sais que ça déborde un petit peu sur la question, mais je pense que le dashboard et parler de time series, c'est très limitant et il faut vraiment penser à comment je fais pour lire ce dashboard plus rapidement, parce que oui, des fois on peut utiliser le dashboard sur du capacity planning, voir si tout est bien positionné et autres, mais dans le pire des cas, ça va être pendant un incident ou quand tout a pété et que votre entreprise génère plus de revenus ou qu'il y a une grosse perte de confiance des utilisateurs. Et donc, il faut trouver les millisecondes ici et là qui permettent d'aller plus vite. Et finalement, un dashboard, c'est tout autant une sorte d'outil qui permet de canaliser toute la connaissance sur un service au même endroit. Et pas seulement juste des métriques de comportement actuel, mais aussi comment le résoudre, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette métrique qui passe à 50 au lieu d'être à 30 normalement. Tout ce genre d'informations qui permettent de plus tard, enfin, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, de comprendre ce qui se passe et d'agir.
D'accord, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que j'avais une vision du dashboard qui traînait dans un coin du bureau, que plus personne ne regarde. Mais là, tu parles d'un dashboard qu'on peut vraiment utiliser quand on a des incidents, c'est ça? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel on interagit, c'est pas juste quelque chose qu'on montre sur un moniteur?
Oui, et puis même pas. Enfin, là, je parle d'incident parce que je pense que l'incident, c'est quand on construit un dashboard, il faut imaginer qu'on va lire ce dashboard-là à un moment où on va être sous beaucoup de stress et il faut qu'on agisse très rapidement. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de réfléchir à comment créer un bon dashboard. Derrière, un dashboard, c'est pas forcément que sur des moments de stress. Il y a un des bons aspects du dashboard aussi, c'est que si on peut rapidement pivoter entre différents environnements, entre le staging, le production, le pre-production et autres, on peut voir les mêmes métriques, comment ça se comporte sur un environnement de production, et avoir sur un autre écran la même chose, mais sur mon environnement de pré-prod, et de comparer si tout va bien, si mon pré-prod il est validé pour passer en production et autres. J'extrapole un petit peu sur le dashboard ici, mais on peut utiliser ce même dashboard qui a été fait pour la production dans le cas d'incident, qui indique comment réagir à telle situation, pour aussi du développement, pour être sûr que en développement, il n'y ait pas des métriques qui commencent à partir dans tous les sens, et que ça valide la chaîne de CI/CD pour être sûr que ce qui passe en prod, ça a été validé, et que les métriques ont été, pas seulement que les tests aient passé, mais que les métriques qui ont simulé le comportement des utilisateurs étaient aussi dans les normes et dans ce qu'on attend de l'application.
Alors, dans mon cas hypothétique que j'ai choisi tout à l'heure, j'ai dit que c'était mes clients qui se plaignaient de latence. Généralement, quand on veut une bonne observabilité, on veut être prévenu avant que les clients se plaignent. Comment on met ça en place?
Alors, il y a plusieurs aspects de ça. Alors, si on parle sur un système complètement vierge, qui on a juste on a des instrumentations, enfin on a instrumenté nos applications, mais on n'a pas encore mis de système d'alerting, de dashboard et autres. Chez Datadog, on a un outil de machine learning qui permet d'identifier certaines anomalies, notamment dans la PM, on va identifier des augmentations de latence, des augmentations d'error rate plus ou moins automatiques. Il y a un peu de magie derrière, c'est quand même du machine learning. Du coup, on peut pas se soumettre à ces algorithmes-là à 100%, mais si on commence, je pense que c'est quelque chose de très intéressant à aller voir et revoir de manière très régulière pour savoir si on a bien mis en place un système d'alerting. Et puis après, il y a tout ce système d'alerting qui est facile à mettre en place aussi. À partir d'un dashboard, le système de query pour créer une métrique ou un widget sur un dashboard, c'est le même que pour créer une alerte, donc un moniteur chez Datadog. Et donc la possibilité dans un moniteur de pouvoir être alerté sur les métriques clés de haut niveau qui permettent d'identifier si les utilisateurs sont impactés et autres. Donc on pourra jamais être averti avant que les utilisateurs soient avertis, soient des erreurs, mais on pourra potentiellement réagir beaucoup plus rapidement si on n'attend pas que ce soit un utilisateur qui réagisse, mais que ce soit des systèmes automatiques qui agissent sur ça. On peut même aller plus loin et ce qu'on peut faire chez Datadog, c'est connecter des systèmes d'alerte avec des webhooks. Et donc avoir des systèmes derrière chez vous qui vous permettent de réagir à certains comportements qui peuvent être très très bizarres. On peut le voir sur des trucs très bêtes, mais on peut potentiellement, si le nombre d'erreurs, l'error rate augmente, si la latence augmente, comme on en parlait, sur mon backend, pouvoir envoyer ça sur une lambda qui vérifie, donc qui fait quelques appels à API sur le backend de Datadog pour voir si il y a une nouvelle version qui a été déployée récemment, et si c'est le cas, potentiellement, automatiquement, trigger un rollback sur cette application, sur le déploiement de ça. Donc ça, c'est peut-être une opération qui peut être automatique. Après, si c'est pas le cas, on peut laisser l'humain rester derrière, mais potentiellement réfléchir à ces systèmes d'automatisation qui permettent de réagir automatiquement. Et en parlant d'automatisation, il y a des clients qui aussi, dans leur système de CI/CD pipeline, ils vont déployer leur application sur 1% de leur parc d'utilisateurs, vérifier au bout de 5-10 minutes s'il n'y a pas une augmentation de latence ou d'erreur sur cette application, sur ce pourcentage très spécifique, sur cette version spécifique. Et si c'est le cas, on roll back, on repasse sur l'ancienne version, ou alors passer sur le truc complet. Donc, même dans ce cas-là, c'est du test en production. Je ne sais pas si c'est bien fait, mais en même temps, le monitoring, c'est, de mon point de vue, un complément du test, et ça doit être développé en parallèle pour être sûr que y ait des bonnes boucles d'itération et que une bonne utilité dans le système.
J'aime beaucoup l'idée. J'ai toujours souhaité avoir un outil de CD qui soit capable de faire un rollback si je dépassais un certain threshold. Ça a toujours été quelque chose dans lequel je voyais de la valeur. Si je reviens à mon exemple précédent, donc, admettons que je sois un utilisateur assez nouveau dans le monde de l'observabilité. J'ai mes utilisateurs qui se plaignent de latence. J'arrive à troubleshooter, tu m'as indiqué comment arriver à cerner le problème et peut-être à le résoudre. Comment maintenant je fais pour faire en sorte que je sois averti avant mes utilisateurs ou au même moment, la prochaine fois que ça se reproduit? Quels seraient mes next steps?
Du coup, c'est simplement de créer un système d'alerting qui... visualiser ça. Donc, une fois que le problème a été isolé, identifiez quelle est la métrique qui permet d'identifier cette latence, cette augmentation de latence, mettre le threshold, la limite qui convienne en disant voilà, si ça passe au-dessus de 300 millisecondes, tu veux être alerté. 300 millisecondes pendant 5 minutes, tu veux être alerté. Et ensuite, envoyez ça soit sur votre système de gestion d'alerte, d'incident, pas d'outil, Opsgenie, autre, soit sur Slack ou tout autre système, email et autre. Donc c'est plutôt simple. Une fois que la root cause a été identifiée, la partie post-mortem et, structuration de la connaissance qui a été générée par cet incident, là, comment je fais pour que la prochaine fois ça se reproduise pas ou que je puisse identifier plus rapidement. Ça devient assez simple puisque une fois qu'on a fait tout le troubleshooting, les requêtes de troubleshooting ont déjà été créées. Il suffit juste de reprendre ces requêtes-là et de les mettre sur un dashboard, de les mettre dans un moniteur et d'alerter les bonnes personnes quand ça se reproduit. Donc, on va dire que c'est la partie la plus simple.
Alors, je parle au nom de tous ceux qui ont été d'astreinte un jour ou l'autre dans leur vie. Le problème avec l'alerting, c'est que ça génère souvent beaucoup d'alerte fatigue. On a beaucoup de faux positifs ou alors on a parfois, on est alerté toujours pour les mêmes symptômes qui impliquent toujours les mêmes steps pour résoudre un problème. Comment on arrive à réduire l'alerte fatigue?
Alors, je vais être très méta, mais en gros, ça serait, de mon point de vue, c'est faire du monitoring. Donc, pouvoir plus ou moins avoir des statistiques sur quelles sont les alertes qui alertent le plus souvent, lesquelles sont des résolutions très rapides ou très lentes, et commencer à itérer là-dessus. Il n'y a pas forcément de recette magique. S'il y a de l'automatisation qui va être mise en place, on a parlé de webhook précédemment, donc on peut potentiellement envoyer ça à une fonction serverless ou même une application qui automatiquement redémarre, passe à la version précédente et autres. Et après, sur toutes les alertes qui n'ont pas lieu d'être, potentiellement, sur ce côté-là, on a des outils comme Composite ou autres. Bon, soit ajuster les thresholds de limite, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'était trop limitant. Soit sinon avec des systèmes comme ce qu'on appelle nous chez Composite Monitor, qui permet en fait de combiner plusieurs états de moniteur pour savoir si c'est une alerte, si c'est alerte worthy, et s'il faut réveiller la personne, s'il faut faire quelque chose immédiatement. Et l'exemple que je donne très très souvent, c'est des histoires de taux d'erreur sur une application. Que le taux d'erreur soit au-dessus de 2%, potentiellement c'est quelque chose de très mauvais pour votre business. Vous voulez être alerté. Par contre, s'il y a deux utilisateurs sur votre site web et que l'un a une erreur, se réveiller quelqu'un au milieu de la nuit pour une personne qui a une erreur, c'est peut-être pas le plus important. Peut-être plus important d'avoir des ingénieurs qui sont en bonne santé, en bonne forme, qui sont contents de travailler, qui ne se font pas réveiller tous les jours parce qu'il y a quelqu'un qui fait péter le site à minuit, intentionnellement ou pas intentionnellement. Donc, recommencer à réfléchir sur ce côté-là. Et je pense que le principal indicateur, c'est si un ingénieur reçoit une alerte et ne fait rien derrière, il n'y a aucune action qui a été prise. Je pense que c'est un des triggers qui doit être mis dans la tête de tout le monde pour dire ce moniteur-là, il faut que je travaille dessus parce que faut pas que je récupère ça. Donc bien sûr, il y a des outils de statistiques, comme je parlais précédemment, pour avoir des vues d'ensemble, quels sont les moniteurs qui triggerent le plus et autres. Mais je pense que même humainement, c'est la partie humaine qui est la plus importante. Donc ne pas hésiter à en parler, parce qu'il y a derrière, il y a des outils qui peuvent être mis en place, des composites de moniteurs, ajuster les thresholds, faire en sorte que on n'alerte pas quelqu'un au milieu de la nuit pour ce truc-là qui est anodin, ou mettre des délais pour dire ce serveur-là, il augmente en CPU, mais c'est normal parce qu'il vient juste d'être allumé, et du coup, il y a plein d'installations à faire, et du coup, c'est pas le bon moment, donc on va mettre un délai avant que les alertes se déclenchent sur ce serveur-là. Donc, il y a pas mal de solutions. Le principe, c'est plus des problèmes de process en interne, où il faut avoir ce système de cette alerte-là, elle est trop noisy, il me sert à rien, j'en fais rien. Comment on peut retravailler tout ça?
Comment tu définis tes alertes en général? Est-ce que tu as des alertes out of the box où tu vas dire je vais monitorer le CPU de mes machines? Ou est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour mettre en place de l'alerting qui est vraiment fonctionnel et qui fait pas trop de faux positifs? Est-ce qu'il y a des métriques qu'il faudrait pas prendre dans les moniteurs? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus adaptées?
J'ai pas forcément de recommandations là-dessus, puisque je pense que ça va changer pas mal d'un système à l'autre, et même pas mal en fonction des process en interne qui permettent de savoir qui peut agir sur quoi. Donc j'ai pas forcément de fortes recommandations là-dessus. Au niveau APM, on parle toujours des métriques, des golden métriques, de throughput, de latency et de error rate. Après, pour le reste, c'est plus, il y a potentiellement du legacy, parce qu'il y a ce qui s'est passé sur d'autres, avant que Datadog arrive aussi, et que voilà, qu'est-ce qui était important pour d'autres personnes et autres, et d'avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe. Pour moi, tant que, voilà, pour dire, Savoir quelle métrique ou qu'est-ce qu'il faut regarder, j'ai pas forcément de bonne pratique sur ça. Ça va dépendre de chaque application, de ce qui est important pour chaque système. Après, pour ce qui est ne pas regarder, encore une fois, on repart sur ce système d'alerte fatigue. Si quelqu'un reçoit une alerte, qu'il n'en fait rien derrière, que ça l'a dérangé en plein milieu d'autres choses, ça c'est prône à s'en passer. Il n'y a pas forcément de grandes règles où tous les clients devraient mettre une alerte sur ça et pas sur ça. Je pense qu'on est plus... c'est plus souple.
c'est du fine-tuning. Pour dire souvent, j'ai vu souvent faire en tout cas, de mettre des thresholds sur du CPU ou de la RAM. Et puis au final, on se fait réveiller au milieu de la nuit parce que le CPU a dépassé un certain threshold et il n'y a aucune action à faire là-dessus, c'est juste que le serveur fait son travail. Il y a des métriques comme ça qui, peut-être, ne sont pas... On a l'impression qu'elles sont très importantes, et elles le sont, c'est des choses qui sont importantes à connaître. Par contre, on n'a pas forcément d'action derrière si une métrique dépasse un certain niveau.
De cet exemple très précis, je pense qu'il faut toujours prendre le client en ligne de mire, quoi, sur qu'est-ce qui est important pour ce client. Le CPU, que le CPU soit très élevé, ça n'a pas forcément d'importance pour le client lui-même tant que le service répond toujours bien. Donc, gardez cette notion en tête que si je réveille quelqu'un, c'est vraiment qu'il y a j'ai des clients, j'ai des personnes qui utilisent mon site web ou mon application qui ont vraiment des problèmes. Si c'est juste au niveau technique, il y a quelque chose qui va pas très bien, mais que le système arrive à maintenir ce status quo et maintenir un certain niveau de stabilité, un niveau de réponse au client qui est correct, pas besoin d'appeler quelqu'un. Après, ça veut pas dire que il faut pas mettre une alerte sur le CPU et tout ça. Je pense que si le CPU atteint 100%, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu des systèmes d'autoscaling qui ont bien fonctionné et autres. Tant que ça implique pas l'utilisateur, voilà, pas besoin d'alerter quelqu'un. Par contre, si ça impacte un utilisateur, avoir cette information-là, même si ça réveille personne, avoir une information sur un dashboard qui me dise que sur mon infrastructure, j'ai 3 moniteurs qui sont au rouge sur 10, ils ont peut-être juste alerté sur Slack, ils ont peut-être juste alerté par email quelqu'un, peu importe, ça m'indique une certaine santé de mon infrastructure et ça permet d'éliminer rapidement des causes. Je sais que j'ai un cas très récemment où j'ai un client qui me disait que son app il s'était fait réveiller en plein milieu de la nuit à cause d'un problème avec son application. Et le problème, c'était tout simplement que la limite sur le CPU limite sur son pod était trop basse. Le pod avait besoin de plus de CPU. Et ils ont mis pas mal de temps à découvrir ça, tout simplement parce que ils n'avaient jamais eu ce problème avant, donc ils n'ont jamais pensé à monitorer ça. Mais si ils avaient eu des moniteurs pour dire mon infrastructure, au niveau serveur, tout va bien. Au niveau pods, il y a des trucs qui vont pas bien. Et, je suis très proche de ma limite. Ça aurait pu les indiquer, la root cause et identifier plus rapidement. Donc, pas forcément alerter quelqu'un, mais le système d'alerting me permet d'identifier en rouge et vert en disant j'en ai 10 qui sont verts et 3 qui sont rouges. Et donc, peut-être que je regarde ce qui se passe là.
Si je reçois une alerte, donc comment ça se présente à moi, une alerte? Donc, je suis soit j'ai, je sais pas, pager duty qui me dit que j'ai une alerte et je dois me connecter. Comment après va se passer mon investigation? Parce que c'est là où ça devient compliqué. J'ai l'error rate ou la latence qui a augmenté sur un de mes serveurs et j'ai cette information. Maintenant, comment va se faire mon cheminement pour arriver à trouver tous les composants qui sont liés à cela? Et comment, en fait, va se présenter l'alerte? Comment je vais pouvoir réagir par rapport à cette alerte pour être le plus rapidement possible efficace pour résoudre un incident?
Sur ça, on reprend plus ou moins le même concept que j'ai essayé d'évoquer précédemment. C'est qu'un dashboard, ou même de plus de manière générique, le système de monitoring, d'observation, c'est une sorte de base de connaissances de... Comment devrait fonctionner l'application et comment il ne devrait pas fonctionner. Recevoir une alerte pour dire juste j'ai un problème, ma latence est forte, très bien, mais derrière, en fonction de qui vous avez, ou même de si vous avez été, c'est 3h du matin et qu'il y a un gamin qui a pleuré toute la nuit, c'est pas le plus frais pour se rappeler de l'application que vous avez développée il y a 2 ans et de qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre tout ça. Donc l'objectif, encore une fois, comme pour le dashboard, c'est de mettre un maximum de connaissances dans le message de la notification. Pouvoir ajouter dans la liste dans le texte, dans la notification, d'avoir une sorte de liste en disant, premièrement, potentiellement, aller voir ce dashboard qui est spécialisé sur l'application parce que c'est là qu'on a mis toutes les connaissances, c'est là qu'il y aura toutes les métriques, etc. Deuxième étape, si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est, voilà, vous avez commencé à trouver les choses, commencez à ouvrir un notebook ou un, voilà, ou un, quelque chose d'un incident pour écrire tout ce que vous avez découvert tout au long de votre investigation. Donc, avoir une sorte de liste d'actions que quelqu'un pourrait prendre. Dans le pire des cas, redémarrer l'application, voici la ligne de commande qui vous permet de redémarrer l'application ou de rollback, etc. Donc, avoir déjà des étapes à remplir. Et ça, je pense qu'on le voit très, très bien. Après, je diverge un peu sur la partie sécurité, mais Datadog, maintenant, a toute une partie sécurité. C'est quelque chose que je suis pas du tout familier avec. Par contre, quand on va voir les règles de sécurité qui ont été mises en place, on voit que l'outil a été fait pour n'importe qui, peu importe si j'ai les connaissances, si je suis nouveau dans la sécurité ou pas du tout, ou si je suis un expert, dans tous les cas, je vais avoir une alerte qui va me dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que j'ai, voilà, ce truc qui peut être montré bien, qu'est-ce que ça veut dire en français, et en dessous, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça. Et même sur certains aspects, on va même pouvoir donner la ligne de commande. Quand on parle de problèmes de sécurité liés à des configurations d'un bucket S3, on va donner la ligne de commande en CLI pour pouvoir dire si tu lances cette ligne de commande, ça va te bloquer les potentiels problèmes de sécurité qu'on pourrait pas. Et je pense que sur un service, c'est la même chose, c'est pouvoir donner un maximum d'informations à la personne, non seulement sur pourquoi j'alerte sur ça, pourquoi c'est important, mais aussi comment le résoudre.
Une sorte de runbook, ouais, à exécuter. Si je reviens un peu sur ce dont tu m'as parlé, je suis, j'ai pas énormément de monitoring mis en place sur ma plateforme, et tu m'as parlé de fonctionnalités de machine learning qui m'aidaient à découvrir un peu, peut-être potentiellement, des choses que j'avais pas vues qui m'ont échappé ou seulement que je ne maîtrise pas encore sur ma plateforme. Comment ça fonctionne? Si tu peux m'en dire un peu plus sur cette fonctionnalité.
Du coup, il y a plusieurs endroits dans la plateforme, en tout cas chez Datadog, où tu vas pouvoir voir un algorithme de machine learning va tourner, essayer d'identifier qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va pas bien. Il y a une première partie qui est sur les métriques, donc les métriques provenant d'APM, donc vous avez les applications. On parle ici de latence, de hit rate, de error rate, de comprendre s'il y a des choses qui montent, qui descendent et qui, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de, voilà, ça devrait pas monter à cette période-là, même si c'est un vendredi, ça devrait être autrement. Donc pouvoir identifier ça, puis le mettre sous forme de ce qu'on appelle stories, qu'on peut ouvrir, essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a même une nouvelle fonctionnalité qui, je pense, qu'on commence à voir, c'est la partie root cause analytics. Donc, vu que la partie APM permet de comprendre quels sont l'enchaînement de tous les services, quand il y a 10 services qui passent au rouge parce que le error rate augmente, avoir un algorithme qui permet d'identifier quel est le potentiel service qui a potentiellement créé le problème, donc peu importe s'il y en a 10, 20, voilà, ça fait la base de données, bon, c'est entouré. Donc, actuellement, ça se limite que à la partie service, donc il n'y a pas l'infrastructure qui est liée à ce truc-là, mais je pense que ça va venir. Pareil sur des informations plus liées à l'infrastructure, donc des bases de données et autres, il y a des métriques qui sont quand même très classiques, qui permettent d'identifier très rapidement si quelque chose va bien ou pas, et donc aussi de mettre en surface certaines métriques qui commencent à se comporter très... Il y a des pics qui arrivent qui ne devraient pas être là. Encore une fois, sur ça, Datadog a une vision... C'est des outils qui sont très classiques. On parle de base de données, si c'est du Postgres, tout le monde utilise du Postgres, c'est la même chose. Donc, ce que ça veut dire la métrique et comment le résoudre, c'est quelque chose qui est connu plus ou moins par tout le monde. Donc, rajouter ça dans la stories pour pouvoir indiquer aux personnes comment résoudre ça. Donc, c'est une partie du machine learning qui peut être fait pour essayer de détecter des choses que vous n'étiez pas forcément au courant. Et puis après, il y a une autre partie du machine learning qu'on peut voir sur les traces ou les logs. Et là, ce que fait Datadog, c'est essayer de mettre en surface des types de contextes qui ont des comportements anormaux. Potentiellement, vous avez un tag qui va dire « cloud provider GCP ». Et sur ce cloud provider-là, on va voir que la latence est de 15 secondes, alors que sur le reste, il est de 3 secondes seulement. Donc, même plus besoin d'aller regarder sur les 100 traces par seconde qui sont émises par votre application. Il y a certains comportements qui peuvent être mis en avant comme ça. Et pareil sur les logs, pouvoir identifier que sur le Merchant Tier dans le Premium, on voit que il y a beaucoup plus d'erreurs, donc que ces logs-là représentent 2% de tous les logs, par contre, ils représentent 50% des erreurs. Donc, pouvoir identifier en fait des contextes automatiquement qui vous potentiellement auraient pris du temps à analyser, puisqu'il faudrait voir des millions de logs, etc., fait à trouver la bonne métrique, le bon contexte qui fait que, ah oui, c'est ce contexte-là qui fait qu'on a beaucoup d'erreurs. Et en fait, de mettre ça en avant pour que les personnes aillent encore plus vite sur le troubleshooting. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en machine learning, data layer, etc. Ce sera jamais parfait, puisqu'on est quand même sur des systèmes qui bougent et autres. Mais l'idée, c'est juste d'être une aide à la décision, une aide à la personne qui fait du troubleshooting pour savoir si y a pas quelque chose que j'ai pas regardé, je sais plus où chercher, mais Datadog a trouvé automatiquement par ces outils d'analyse d'anomalie.
Aujourd'hui, nos infrastructures ont énormément changé. On a vu l'arrivée de Docker, de Kubernetes. On a mis nos applications dans des containers, puis dans des pods. On a peut-être mis du service mesh au-dessus. On a peut-être mis des fonctionnalités de sécurité, etc. Il y a eu un gros changement des outils et tout ça s'est largement complexifié. Est-ce que tu penses que, justement, le fait d'amener du machine learning dans tout ça permet de simplifier un peu l'équation et de se dire qu'on est dans des environnements hyper complexes et qu'on a du mal à maîtriser de bout en bout, mais donc d'investiguer sur une erreur, est-ce que le machine learning, ça peut être une des solutions à ce problème de d'onboarding sur les nouvelles solutions techniques?
Je pense que le machine learning, ça peut être une solution. Par contre, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Si on ne sait pas comment fonctionne quelque chose, c'est peut-être pas le meilleur moyen de se dire ah, l'outil machine learning va tout faire pour nous et ça sera la panacée et du coup j'ai même plus besoin de faire quoi que ce soit. Je suis à 100% sur mon algorithme de machine learning. Je pense que c'est trop réducteur et je pense que au contraire je partirais sur le fait que ce qui peut m'aider si je pars sur des systèmes que je ne comprends pas et qui peut m'aider, c'est voir s'il n'y a pas des ressources qui ont été déjà créées. Donc Datadog se veut comme une plateforme, donc essayer de trouver des moniteurs qui ont été créés par d'autres personnes, des dashboards qui ont été créés par d'autres personnes, qui permettraient à un nouvel utilisateur de Kubernetes de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant à regarder. Et c'est pour ça que dans la plateforme, déjà, il y a des outils, il y a des, ce qu'on appelle des out-of-the-box dashboards, donc des dashboards qui sont prédéfinis, et des moniteurs qui sont aussi recommandés de moniteurs, qui ont déjà été créés. Des gens peuvent aussi en créer et rajouter, le repo est public. Mais je pense ça c'est peut-être mon point de vue, mais il ne faut pas se dire que machine learning ça va tout résoudre. Je pense que c'est plus une aide à la décision qu'autre chose. Il faut repartir sur la question. Si je ne connais pas, il faut que j'apprenne comment ça fonctionne. Et pour ça, il y a des out-of-the-box dashboards, des recommended monitors, potentiellement le machine learning. Mais l'objectif, c'est de construire sa propre connaissance. Et une fois qu'on a compris que cette métrique-là, elle est importante pour telle et telle raison, bah de structurer cette connaissance, comme je l'ai dit précédemment, dans un dashboard, dans quelque chose qui va être mis à jour automatiquement, et sur lequel je peux dire, bon, pour ce type d'erreur, faites ceci, il y a une liste d'actions à prendre derrière. Ou un type de moniteur, pareil, où on va écrire un message qui est très... un runbook, comme on disait précédemment.
Ok. Est-ce que, donc, selon toi, on peut apprendre un peu comment est l'environnement? Parce que des fois, on n'a pas le choix, je veux dire, on est précipité dedans. On a beau avoir peut-être une connaissance de cubes ou des containers ou des workloads distribués, mais arriver à un poste où on n'a pas la connaissance de l'environnement. Est-ce qu'au travers de l'observabilité, il y a une manière d'apprendre l'environnement et sa façon de fonctionner?
Je dirais que oui. En fait, il y a plusieurs niveaux, encore une fois. Premièrement, si on est lancé directement dans un environnement qu'on ne connaît pas, je parle, ce que j'ai vu pas mal chez certains clients, c'était des Kubernetes. Il y a quelqu'un qui va mettre ça en place, on va mettre ça à l'échelle, les économies de coûts sur l'infrastructure et autres, c'est génial. Par contre, la personne qui développe l'application, elle... ne comprend pas grand-chose, donc elle va faire son application, elle va mettre ça dans un container, et puis elle espère que tout va bien, mais se soucie pas forcément de comment fonctionne Kubernetes, parce qu'il ne comprend pas. Et c'est là où les dashboards peuvent être partagés, même au sein d'une même équipe, comprendre, voilà, moi j'ai fait un dashboard pour tous les gens qui n'y connaissent rien, pour dire que ces métriques-là sont importantes, ça indique ça, ces métriques-là sont importantes, ça indique ceci, etc., et former les gens petit à petit en fonction de leurs besoins qui savent à n'importe quel moment que pour progresser sur ce domaine-là, il y a déjà un dashboard qui a été fait avec des exemples concrets et autres. Je pense que c'est la... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu comme le meilleur truc. Il y a aussi quelque chose que j'essaie de pousser énormément en ce moment, c'est les gens vont créer des dashboards sur un domaine d'expertise qu'ils maîtrisent. On parle de sur un système, voilà, on parle de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, je suis poussé sur quelque chose que je ne connais pas et je dois apprendre dessus pour pouvoir mieux maîtriser mon application. Moi, ce que je vois beaucoup en ce moment, c'est par exemple, c'est la partie sécurité. C'est quelque chose que il y a beaucoup de gens qui, bon, ils ont réussi à sur l'application, ils maîtrisent. Bon, APM, ils commencent à maîtriser. Maintenant, il faut qu'ils ont commencé à comprendre aussi comment fonctionne Kubernetes. Bon, c'est bon, ils sont à peu près bons là-dessus. Ils ont un dashboard qui va bien. Maintenant, on leur ajoute la sécurité dans la boucle. Et cette fois-ci, au lieu que ça soit potentiellement aller chercher de l'information sur la sécurité et autres, pour laquelle j'ai pas de temps et autres, c'est pourquoi ne pas mettre cette information directement dans mon dashboard. Et le fait d'avoir tout dans une même plateforme, c'est potentiellement, il y a une autre équipe qui est responsable d'une sous-section de mon dashboard, en mettant en avant les trois types de failles de sécurité qui sont les plus critiques pour me lire mon application. Là, j'ai pas bien configuré quelque chose. Je peux potentiellement aussi rajouter des actions à prendre, mais ici, c'est plus sensibiliser les gens pour que ça les intrigue et qu'ils se disent, bon, ça fait 3 semaines, j'ai 3 trucs qui sont en rouge, ce serait bien que j'ajoute, que je passe un petit peu de temps pour régler ça, quoi. Donc, au lieu d'avoir une politique où je dois apprendre, potentiellement, avoir des équipes qui ont principalement été séparées sur d'autres outils complètement différents, et du coup, c'est très difficile d'atteindre l'utilisateur final qui, lui, peut prendre les décisions de bloquer certains ports et autres, de mettre ces informations-là directement dans le dashboard qu'ils vont voir tous les jours pour que, aujourd'hui, on va faire une sensibilisation sur la sécurité. Donc, le dashboard, les widgets supplémentaires qui vont être mis dans mon dashboard sont des widgets de sécurité. Et d'ici la fin du mois, il faudrait potentiellement que je réduise tout ce qui ne va pas et que j'améliore ça. Donc, je pense qu'on peut pousser de l'information aux personnes assez doucement avec des thématiques potentiellement sur un mois et autre pour aider les gens à se former dessus aussi.
Ok. Une dernière question. En introduction, tu as dit que Datadog permettait de briser un peu les barrières qu'il y avait entre les silos. Alors, comment aujourd'hui on arrive autour de l'observabilité à faire en sorte qu'il n'y ait pas de silos, justement ?
Du coup, c'est un petit peu ce que je disais précédemment, c'est amener les gens sur la même plateforme. Je pense qu'il y a quelque chose qui a toujours été difficile, c'est de demander à quelqu'un d'aller faire quelque chose, premièrement, qu'il n'a pas envie de faire, et sur un outil qu'il s'en fout complètement, lequel il faut potentiellement qu'il s'enregistre sur une autre plateforme, qu'il demande des accès à l'IT, etc., pour pouvoir se loguer et voir que son application ne va pas bien et avoir des actions à prendre derrière. Ça fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour quelque chose que j'ai même pas envie de faire depuis le départ. Du coup, je pense que casser les ciseaux, comme on dit, c'est super important, et avoir tout au même endroit, ça aide pas mal. Et je pense que c'est quelque chose que Datadog essaie de faire énormément, de lier des éléments ensemble pour que on offre une vision globale de la santé d'un système et autre. Que ce soit pas forcément que de l'APM avec des métriques qui sont liées aux utilisateurs, mais que ce soit aussi de l'infrastructure, de voir si l'infrastructure est bien configurée, mais aussi au niveau sécurité, qu'il n'y ait pas d'autre chose, de ramener tout ça à la même plateforme. Après, les process de chaque équipe sont différents, mais ce que moi je vois et ce que j'essaie de pousser les gens à faire, c'est une équipe sécurité, ça n'aura jamais le temps d'aller mettre en place des politiques de sécurité chez tout le monde. En plus de ça, chacun va créer, une fois que tout est mis en place, il y a quelqu'un qui va créer un nouveau service, qui ne va pas respecter les règles, il va falloir repartir le voir, etc. C'est un peu sans fin, alors que finalement, il y a des bonnes pratiques qui peuvent être facilement instruites aux gens, enseignées aux gens, grâce à de la visualisation, grâce à ce genre de choses, et de dire, voilà, ça c'est ton dashboard, mon truc, voilà les 3 widgets que moi je te recommande de mettre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien passer, ça va être comme ça, puis on va faire des sessions de manière régulière, peut-être une fois par mois, une heure avec votre équipe pour savoir comment on peut améliorer ces 3 graphiques-là. Donc, les aider petit à petit, les sensibiliser et faire en sorte que, de même faire de la quantification de ce genre de choses pour faire un petit peu de quantification, gamification et voir que j'avais 50 problèmes de sécurité au préalable sur mes 3 buckets et puis maintenant, je ne suis plus qu'à 10 ou 5 ou j'en ai plus du tout. C'était pas si compliqué et puis j'ai même maintenant des outils d'automatisation que je manage qui me permettent de régler ça automatiquement et de faire ce genre de choses. Je pense que c'est même très intéressant. Moi, je sais que chez Datadog, j'avais fait quelque chose de très bête, mais j'avais ouvert sur un environnement de sandbox, j'avais ouvert une EC2 sans bloquer l'IP, à savoir que c'était n'importe qui pouvait venir. Et il y avait un système d'automatisation qui était automatique derrière, qui m'a fermé le C2, qui m'a dit faut pas recommencer. Et derrière, moi, je trouvais ça bien, parce que c'est quelque chose, je me suis même posé la question en me disant que c'était très grave, parce que c'est des sujets du sandbox et autres, mais ça aide les gens à s'auto-former, même sur des environnements qui sont un petit peu bateaux et qui sont pas très critiques, mais ça aide les gens à vraiment se sensibiliser très très early on, que ça soit sur du dev, de l'environnement de prod, etc., parce que on moniteur pas que le prod et que au niveau du dev, du développement, c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup plus de chances d'influencer les bonnes pratiques par la suite, de faire en sorte que tout fonctionne bien et que l'application qu'on développe ne se base pas sur des ports ouverts qui devraient pas être ouverts, des choses qui sont pas bien faites, c'est tout ça. Je pense qu'avoir tout dans une plateforme, finalement, c'est un gros avantage pour tout le monde, pas forcément que pour toute l'entreprise, pour pousser les bonnes pratiques à tous les niveaux de la stack.
Nico, merci beaucoup.
Merci à toi pour les questions.
Retrouvez Nico sur Twitter @nxnarbet et Datadog sur datadoghq.com. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.